Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h à Paris et à Bruxelles.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hidrac.
Bonjour Anne Gantner, bonjour à toutes et à tous. L'Europe et l'Ukraine sont à un moment décisif face à un danger clair et immédiat. Déclaration de la présidente de la Commission européenne à l'ouverture du sommet extraordinaire des 27 à Bruxelles. Réunion de crise sur la sécurité sur fond de repli américain. Le président Macron a insisté hier soir à la télévision sur la menace russe et évoqué une protection de l'Europe par le parapluie nucléaire bleu-blanc-rouge. Avalanche de critiques à Moscou qui dénonce un discours déconnecté de la réalité. On sera également à Kiev où des manifestants se sont réunis tout à l'heure pour manifester donc devant l'ambassade américaine.
RFI.
À suivre aussi un canal de communication entre les États-Unis et le Hamas. Washington confirme des contacts directs avec l'organisation pourtant classée terroriste. En Inde, les autorités qui promettent de s'attaquer à la montagne de déchets des tonnes d'ordures qui brûlent aux portes de New Delhi. Et puis la célèbre comédie musicale Hamilton ne sera pas jouée comme prévu l'an prochain au Kennedy Center de Washington. Décision des créateurs du spectacle après la mainmise du président Trump sur ce temple de la culture. Le ton a changé, les termes des responsables européens aussi. Nouvelle ère, menace claire, danger immédiat. Face à l'offensive russe en Ukraine et au désengagement américain, les dirigeants européens sont donc réunis là à Bruxelles pour un sommet crucial, sommet extraordinaire où l'on vous retrouve, Anastasia Becchio, vous êtes en direct. Il s'est ouvert ce sommet il y a une petite heure maintenant avec les 27, en présence aussi de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien malmené par l'administration Trump, qui vient chercher du soutien auprès des Européens.
Oui, Volodymyr Zelensky a été accueilli chaleureusement par le président du Conseil Antonio Costa et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Poignée de main appuyée, large sourire, le chef de l'État ukrainien vient en ami et en tant que président d'un pays destiné à rejoindre l'UE, comme l'a rappelé Antonio Costa. Le président ukrainien a remercié les Européens de ne pas laisser son pays seul face à la Russie après le gel de l'aide militaire américaine. L'Europe doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger, a dit pour sa part Ursula von der Leyen. Après le déjeuner de travail avec Volodymyr Zelensky, les 27 vont étudier son plan pour réarmer l'Europe qui vise à mobiliser quelques 800 milliards d'euros. La question d'une aide supplémentaire accordée à l'Ukraine doit aussi être abordée. Le chancelier sortant Olaf Scholz a plaidé pour une paix juste et équitable qui garantisse la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Mais d'autres pays comme la Hongrie sont réticents à continuer à transférer davantage d'armes à l'Ukraine. Depuis son dîner hier soir à l'Elysée, Viktor Orban n'a pas fait de déclaration publique, tout comme Emmanuel Macron arrivé ici il y a un quart d'heure au Conseil et qui est allé directement s'entretenir avec Volodymyr Zelensky.
Anastasia Becchio, on suivra avec vous donc ce sommet extraordinaire des 27 à Bruxelles, alors que l'Ukraine est privée de l'aide militaire et du partage du renseignement américain. Tout cela a été suspendu. La France, en revanche, fournit du renseignement militaire à Kiev. C'est ce qu'a dit ce matin le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, chez nos confrères de France Inter.
Nous, notre renseignement est souverain. Ça a été plus long de remonter en puissance ces dernières années, mais l'avantage, c'est que nous l'avons fait effectivement avec des capacités qui nous sont propres. Donc oui, on a des moyens de renseignement. Nous nous faisons bénéficier les Ukrainiens. Non, je crois que sur la menace russe, de fait, on n'a jamais varié. C'est sûr qu'on a un système politique et parfois médiatique qui n'a pas envie de le voir. Bon, moi je suis ministre des Armées, vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Donc après, je sais pas en quelle langue il faut le dire, peut-être à certains en russe, mais la réalité, c'est que oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre et qui désormais engagé dans des coopérations des plus dangereuses avec Téhéran d'une part et la Corée du Nord d'autre part, sans oublier les transferts de technologies éventuels, sans oublier les programmes d'armement que même la guerre froide avait permis de réguler, typiquement l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace, il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là.
La Russie est une menace, affirme donc le ministre français des armées. C'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir.
Oui, très clairement, dans son allocution suivie par 15 millions de téléspectateurs, discours sombre, ton solennel, le chef de l'État a prévenu, il faudra, selon Emmanuel Macron, des réformes, du choix, du courage face à la Russie. Il a aussi proposé un débat stratégique sur la protection des Européens par la dissuasion nucléaire française. Discours très critiqué à Moscou aujourd'hui. Avalanche de réactions, elles sont toutes très dures, notamment celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
Bien sûr, c'est une menace pour la Russie. S'il nous considère comme une menace, convoque une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, dit qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie, bien sûr, c'est une menace. Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon, Hitler, Monsieur Macron n'agit pas très gracieusement, car eux ont dit directement « nous devons conquérir la Russie, nous devons la vaincre ». Lui veut apparemment la même chose. Mais pour une raison quelconque, il dit « nous devons combattre la Russie pour qu'elle ne vainque pas la France, que la Russie crée des menaces pour la France et l'Europe ». Vous savez, Monsieur Macron déclare périodiquement avec beaucoup de fierté qu'il appellera certainement Poutine, lui parlera. Il en a la possibilité, personne ne s'y oppose. Au contraire, le président souligne constamment son ouverture au contact avec tous ses collègues.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, propos recueillis par notre correspondante Anissa El-Jabri. Les autres déclarations officielles à Moscou sont du même acabit. Selon le porte-parole du Kremlin, par exemple, le président français veut que la guerre continue. La guerre sur le terrain et de nouvelles frappes russes. La nuit dernière, dans le centre de l'Ukraine, dans la ville natale du président, le bilan est de 4 morts. Parallèlement à Kiev, la capitale, des manifestants se sont rassemblés tout à l'heure devant l'ambassade américaine pour protester contre les décisions de la nouvelle administration et réclamer aussi la libération des prisonniers de guerre avant toute négociation. Reportage signé Cerise Sudry-Ledu.
La Russie tue ou libérer nos prisonniers, les 200 personnes qui se sont donné rendez-vous devant l'ambassade des États-Unis à Kiev ce jeudi matin ont pris soin de rédiger leur pancarte en anglais. Beaucoup brandissent aussi la photo de leur frère, ami ou fils, disparu depuis des mois. Maria, 35 ans, ne peut retenir son émotion. La jeune femme a fait le déplacement depuis Lviv à 800 km de là pour être présente avec sa mère.
Mon frère est soldat. Il a disparu en décembre 2023. Il était à Marinka. Maintenant, ce territoire est occupé et nous ne savons rien de lui. S'ils veulent un accord, qu'ils organisent au moins un échange de prisonniers.
Natalia Epifanova, à la tête de l'association Libérer nos soldats, qui a organisé la manifestation, tente de rester calme malgré sa colère.
Donald Trump veut la paix, nous aussi. Mais sans les retours des prisonniers de guerre et des personnes disparues, cette paix n'en est pas une.
D'autant que si certains parlent de paix, la Russie continue, elle, à attaquer. Dans la nuit, 4 personnes sont mortes en Ukraine suite à des frappes russes. Cerise Sudry-Ledu, Kiev, RFI.
Les États-Unis essaient autre virage. Pour la première fois, Washington confirme des contacts directs avec des responsables du Hamas.
Oui, publiquement, c'est ça. Le président américain a lancé un avertissement au Hamas et à la population de Gaza. Si vous gardez les otages, vous êtes morts. C'est ce qu'il écrit en majuscule Donald Trump sur son réseau social. Message en forme d'ultimatum. Donc, mais en coulisses, eh bien, un canal de communication est effectivement ouvert entre Washington et le Hamas. C'est une première depuis près de 30 ans, en tout cas une première publiquement reconnue. Et cela inquiète le gouvernement israélien, Sami Bourlifa.
Washington a classé le Hamas organisation terroriste en 1997. Depuis cette date, les Américains ne parlent plus au mouvement islamiste palestinien. Changement de méthode, l'administration Trump renoue le dialogue et négocie désormais directement en priorité la libération des otages israélo-américains détenus par le Hamas. Gershon Baskin est lui-même ancien négociateur israélien. Il salue l'initiative américaine.
Les négociations directes sont une bonne chose, mais c'était tabou jusqu'à présent. Donc c'est bien que les États-Unis
États-Unis et briser ce tabou. Mais si les États-Unis négocient uniquement pour libérer les otages binationaux américains, alors là, c'est mauvais signe. Les otages sont otages d'abord parce qu'ils sont israéliens.
Selon le site d'information Axios, ces discussions entre Washington et le Hamas viseraient dans un second temps à faire libérer tous les otages et parvenir à une trêve à long terme à Gaza. Les autorités israéliennes, agacées par ces négociations, se sentent mises à l'écart, rapporte la presse israélienne. Pourtant, Israël ne proteste pas officiellement. Gershon Baskin.
Benjamin Netanyahu ne peut rien dire à Trump. Si Trump dit qu'il envoie son négociateur pour parler au Hamas, alors Netanyahu n'a pas son mot à dire. Celui qui a les cartes en main aujourd'hui, c'est Donald Trump. C'est lui qui décide s'il y a oui ou non un accord pour la libération des otages.
Le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué très laconique. Israël a fait part aux États-Unis de sa position concernant des pourparlers directs avec le Hamas. Sami Bourkif à Jérusalem, RFI.
Et de son côté, le Hamas a condamné les menaces de Donald Trump sur la libération des otages pour l'organisation. Cela complique encore les choses concernant l'accord de trêve à Gaza et cela encourage, dit le Hamas Israël, à ne pas appliquer cet accord.
Et on reviendra sur la reprise d'échanges directs entre Washington et le Hamas ainsi que sur l'avenir du mouvement dans la bande de Gaza dans quelques minutes avec notre invitée, co-directrice du Palestine Institute for Public Diplomacy.
La Chine promet de se battre jusqu'au bout dans la guerre commerciale engagée avec les États-Unis, avec les nouveaux droits de douane. En marge de la session parlementaire qui se tient en ce moment à Pékin, le ministre chinois de l'économie a dénoncé des mesures qui perturbent l'économie mondiale, dit-il. En Inde, les autorités veulent se débarrasser de la montagne d'ordures fumantes en périphérie de New Delhi. Une montagne de déchets, c'est irrespirable. C'est devenu un symbole de la pollution de la capitale indienne. Et l'objectif, Léa Oja, c'est de fermer le site d'ici mars 2026.
C'est une décharge à ciel ouvert qui culmine à 60 mètres de haut et accueille plus de 11 000 tonnes de déchets produits chaque jour, selon les estimations, par les 30 millions d'habitants de Delhi. Les particules brûlées polluent l'air, l'eau et le sol des quartiers nord de la capitale. Éliminer cette montagne de déchets est une grande décision politique pour Jagriti.
Je pense que c'est une bonne chose pour Delhi, encore plus pour les personnes qui vivent près de cette montagne de déchets et pour les animaux qui cohabitent proche de cette zone. Si le gouvernement le fait vraiment, c'est évidemment une grande nouvelle.
Les autorités locales projettent de planter des bambous sur la surface récupérée. Notre objectif est de ne plus avoir à l'avenir ces montagnes de déchets, promis le ministre de l'Environnement. Une mesure phare pour lutter contre la pollution, d'après Kashish.
Oui, bien sûr que c'est bien, parce que Delhi, c'est la ville la plus polluée.
Et vous souffrez de la pollution ?
Oui, moi, un petit peu, mais c'est encore plus dangereux pour les personnes âgées.
Les gaz toxiques, issus de l'industrie ou de la circulation, causent chaque année des milliers de morts prématurées à Delhi. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
En France, Martine Aubry et la mairie de Lille, c'est fini, ou presque. L'emblématique maire socialiste de cette ville du nord de la France annonce sa démission. Ce sera pour mi-mars. L'ancienne ministre est maire de Lille depuis 2001. Elle affirme que le temps est venu de passer la main.
C'est l'une des comédies musicales les plus populaires et les plus célébrées aux États-Unis depuis 10 ans. Hamilton ne sera pas joué au Kennedy Center comme prévu en 2026.
Les représentations sont annulées. Une décision des créateurs de ce spectacle qui célèbre l'un des pères fondateurs de l'Amérique, Alexander Hamilton. Décision prise après la prise de contrôle du Kennedy Center par Donald Trump, Olivier Roger.
Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Ce n'est plus le Kennedy Center tel que nous le connaissions, a tweeté Lin-Manuel Miranda, le créateur de la comédie musicale qui depuis 10 ans accumule les succès et les récompenses aux États-Unis et dans le monde. Le spectacle devait être joué entre mars et avril 2026 au Kennedy Center dans le cadre des commémorations du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais le mois dernier, Donald Trump a pris par surprise la tête du conseil d'administration du Kennedy Center, provoquant un choc dans le monde de la culture. Le président américain n'a pas digéré un spectacle datant de 2023 et mettant en scène des drag queens. Il justifie sa prise de contrôle de l'institution par une supposée dérive woke. Pour les producteurs d'Hamilton, le Kennedy Center, censé favoriser l'expression libre de l'art aux États-Unis, n'est plus à même de remplir sa mission. Le nouveau président du Kennedy Center s'est empressé de critiquer la décision des artistes qu'il accuse d'intolérance. Depuis la prise de contrôle par Trump, plusieurs artistes ont déjà annulé leur spectacle au Kennedy Center, parmi lesquels la musicienne afro-américaine Rhiannon Giddens et l'actrice Issa Rae. This is Hamilton.
Il est 7h15 à Washington, 13h15 ici à Paris, et on va parler de l'actualité sportive tout de suite. Charlotte Hydra, on vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
Du football pour commencer, le Paris Saint-Germain touché mais pas coulé en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
Et oui, dominé n'est pas gagné, et morale intemporelle du foot une nouvelle fois vérifiée hier soir au Parc des Princes par cette défaite du PSG 1-0, but d'Harvey Elliott à la 87e minute sur la seule occasion franche des Reds, réaliste et protégé par un énorme Alisson Becker dans les buts, auteur de 10 arrêts. Le gardien brésilien a permis de finaliser un scénario cruel pour les Parisiens, pourtant pas loin de trouver la faille en première période sur un but de Kvaratskhelia, finalement refusé pour hors-jeu. Frustrant donc forcément, mais l'entraîneur Luis Enrique n'a rien à reprocher à ses joueurs, bien au contraire.
J'ai vu un match où je peux être fier de mon équipe et de mes joueurs. Je leur ai dit dans le vestiaire, et je vais le répéter, félicitations à eux, je les félicite profondément. Évidemment qu'on peut s'améliorer. En fait, c'est dans mon ADN. Je suis quelqu'un d'exigeant. Mais vraiment, c'est un jour pour féliciter et encore féliciter, encourager mes joueurs. Mardi, on va à la Liverpool pour un nouveau match, les yeux dans les yeux, essayer de prendre le ballon à l'adversaire, tenter de se créer plus d'occasions et faire en sorte que nos supporters soient encore fiers de nous. Ça me suffit.
Luis Enrique avec Cédric de Oliveira, match retour mardi prochain à Anfield.
Le Bayern Munich lui abordera la seconde manche contre le Bayer Leverkusen, l'esprit plus tranquille.
Oui, grâce à une victoire 3-0 à domicile avec notamment un doublé de Harry Kane, les Bavarois prennent ainsi une petite revanche sur leur rival de Bundesliga qu'ils n'arrivaient plus à battre depuis 6 matchs. De quoi d'ailleurs donner un surcroît de motivation, comme l'a expliqué le défenseur français du Bayern, Dayo Upamecano.
On avait à cœur de gagner aujourd'hui, mais à la maison. On a suivi la tactique du coach et ça a bien fonctionné. Parce qu'on l'a vu les derniers matchs contre eux, on s'est fait manger au milieu de terrain sur les pertes de balles, sur les deuxièmes ballons. Aujourd'hui, on a montré qu'on était une équipe, on a bien défendu ensemble. Aujourd'hui, on a marqué des buts, donc c'est bien pour la suite. On a beaucoup de respect pour cette équipe, pour ce coach-là. Ils font du très très bon travail. Mais comme j'ai dit, on garde les pieds sur terre. Moi, on sait que c'est la première mi-temps. On va aller chez eux pour gagner encore.
Des propos recueillis par Canal+. Bonne opération également pour le FC Barcelone. Encore vainqueur sur la pelouse du Benfica Lisbonne, comme en phase de ligue, mais de manière moins spectaculaire. Un petit score 1-0. Et pour l'Inter Milan, qui est allé l'emporter chez les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam, 2-0.
Le football européen continue aujourd'hui avec les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa cette fois.
Ça concerne notamment Lyon, opposé en Roumanie au Steaua Bucarest, avec, sauf évolution de dernière minute, Paulo Fonseca bien présent sur le banc de l'OL, ce qui ne sera plus possible en France jusqu'au 30 novembre prochain, conséquence de la lourde sanction infligée hier soir par la commission de discipline de la Ligue professionnelle pour le coup de sang du Portugais contre l'arbitre Benoît Millot à la fin du match de Ligue 1 contre Brest. Pas facile de faire abstraction de cette nouvelle donne chez les joueurs, malgré tout concentrés sur l'adversaire du soir qu'ils n'auraient pas familier, le défenseur sénégalais Moussa Niakate.
On a eu peu de jours pour travailler, parce qu'on a joué dimanche après-midi contre Brest. Vous savez, on a essayé de travailler au maximum, d'analyser cette équipe. On est prêts, les têtes sont fraîches et on va être présents pour nous donner les meilleures chances et recevoir cette équipe à Lyon dans une semaine avec un petit avantage. C'est une équipe qui a des qualités, faut pas l'oublier. Je pense que s'ils sont en huitième de finale d'Europa League, c'est pas pour rien. Et il me semble qu'ils ont fait juste une défaite durant la première partie de la compétition contre Manchester. Donc nous, en tout cas, on va se concentrer sur nous, sur notre performance. Et on sait que si on joue à un autre niveau durant les deux rencontres, ça devrait bien se passer.
Moussa Niakate avance, TAE à Bucarest, Lyon, 17h45, temps universel. Parmi les autres matchs au programme, le déplacement de Manchester United sur le terrain de la Real Sociedad. De son côté, l'Ajax Amsterdam reçoit l'Eintracht Francfort.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr.
RFI. Le Monde à midi.
On retrouve tout de suite notre invité. Bonjour Inès Abdelrazek.
Bonjour.
Vous êtes la co-directrice du Palestine Institute for Public Diplomacy, une ONG palestinienne de plaidoyer et de démocratie citoyenne. On en parlait tout à l'heure dans le journal, des contacts directs entre les États-Unis et le Hamas ont eu lieu. C'est la première fois depuis quasiment 20 ans. Des contacts secrets, bien sûr, mais confirmés ces dernières heures par l'administration. Pourquoi ce changement, selon vous ?
Alors, je pense qu'il est important de rappeler que c'est quand même une étape significative et que comme quoi on peut discuter avec tous les groupes. Et je pense que se cacher derrière ces politiques de boycott des interlocuteurs, comme le fait l'Union européenne, la France et d'autres pays, ne fait en rien avancer les discussions. Donc, je pense que c'est une avancée significative. Et je pense que Israël est tout à fait au courant. Hein, l'administration Trump et les États-Unis ne font rien sans en informer leurs alliés. Donc, tout passe par leur intérêt et leur amitié et leur soutien inconditionnel aux États-Unis. Donc c'est un geste qui a été approuvé.
C'est un geste qui n'a pas changé en revanche la ligne politique des États-Unis. Au contraire, hein, Donald Trump a intimé au Hamas de libérer immédiatement les otages et il a prévenu en lançant des menaces de mort. J'envoie tout ce qu'il faut à Israël pour finir le travail. Est-ce que vous pensez que le Hamas pourrait céder sur ce point des otages ?
Le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, le Hamas a respecté tous les termes des accords de cessez-le-feu. Des accords de cessez-le-feu qui sont sur trois phases. Israël a refusé de commencer même les négociations de la seconde phase. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite, on regarde et on met le zoom sur le Hamas, ce que le Hamas doit accepter ou pas, ce que le Hamas doit faire ou pas. Alors que effectivement, plus d'une centaine de violations du cessez-le-feu ont déjà été commises par Israël, y compris tuer des Palestiniens à Gaza, y compris le blocus de l'aide humanitaire, etc. Donc ce qui se passe, c'est que toutes ces négociations sont liées aussi à des compromis qui sont faits pour au moins arriver à un cessez-le-feu permanent. Et il est très clair que si les analyses montrent que si tous les otages sortent, à ce moment-là, Israël a intérêt à recommencer les bombardements, à continuer le génocide. Et évidemment, le Hamas prend cela en compte dans ses calculs.
Alors, pendant que les négociations se poursuivent au Caire, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier et les pays européens y ont demandé une nouvelle fois que soient levées les entraves à l'aide humanitaire à Gaza et ils ont aussi adressé un message par la voix de l'ambassadeur adjoint français. Écoutez.
Nous saluons les efforts régionaux visant à mobiliser autour d'un plan unique pour la prochaine phase à Gaza. Nous sommes clairs sur le fait que le futur plan ne doit donner aucun rôle au Hamas.
Aucun rôle pour le Hamas, c'est aussi ce qu'ont dit les pays de la Ligue arabe, donc auxquels faisait allusion l'ambassadeur adjoint français. Eux recommandent d'abord la mise en place d'un gouvernement de technocrates, puis des élections. Est-ce que ça vous semble possible ?
Alors écoutez, on est face quand même à une situation typiquement, je dirais, coloniale. Nous sommes dans un conflit colonial, nous sommes dans une situation coloniale où la communauté internationale, les États étrangers peuvent dire ou non qui peut être autour de la table comme palestinien. Ce n'est pas aux étrangers de décider de la sorte et on l'a vu dans l'histoire, dans différents contextes, l'Afrique du Sud, le Vietnam, etc. Qui est un interlocuteur acceptable ? Et puis plusieurs années après, on estime internationalement que ces interlocuteurs sont valides, donc oui, on va les réintégrer autour de la table. C'est aux Palestiniens de décider. Le Hamas est un acteur et un interlocuteur qui n'est pas seulement une branche armée, il a une branche politique, c'est une idéologie, c'est un mouvement qui a ses ancrages dans les universités, dans la société civile. Donc on ne peut pas comme ça décider par la communauté internationale d'exclure un mouvement. On peut ensuite discuter de s'il y a des crimes de guerre qui sont commis, à ce moment-là qu'il y ait justice qui soit faite, ça c'est absolument nécessaire, mais il faut encore une fois revenir au fait que cela fait des décennies que les instances internationales, l'ONU et la Cour internationale de justice l'a réitéré. Le problème fondamental pour mettre fin à la violence, c'est l'occupation israélienne, c'est la colonisation des territoires palestiniens, c'est le déni du droit à l'autodétermination des Palestiniens, et donc pour mettre fin à la violence, malheureusement, on en revient à ce que fait Israël, c'est-à-dire de tout détruire, d'avoir une stratégie de nettoyage ethnique, de prise de territoire ou de destruction, pour ensuite négocier si on peut revenir sur un bout ou non du territoire. Et c'est ce qui se passe avec les États arabes qui aujourd'hui discutent d'un nouveau plan de reconstruction de Gaza. En 2002, il y avait aussi un plan arabe, une initiative de paix, mais Israël l'a toujours refusé. Résultat, nous sommes là 20 ans plus tard, avec une situation sur le terrain qui s'est détériorée et les Palestiniens qui demandent toujours la même chose, leurs droits fondamentaux.
Vous nous dites qu'il faut que les Palestiniens décident eux-mêmes. Est-ce que le Hamas aujourd'hui bénéficie encore d'un soutien populaire ?
Oui, comme d'autres factions et comme des gens qui ne sont pas affiliés à des factions. Et c'est pour ça que les Palestiniens, la société civile et de nombreuses demandes et de nombreux, de nombreux communiqués ont été, établis. Les Palestiniens demandent des élections. Les Palestiniens demandent, ou en tout cas demandent, dans une étape intermédiaire pour pouvoir aussi avancer sur la reconstruction et au moins une situation vivable pour les gens de Gaza, à une table ou un gouvernement de réunification nationale et de réconciliation qui inclut tous les acteurs, pas seulement les factions actuelles, que ce soit l'autorité palestinienne contrôlée entièrement par le Fatah ou le Hamas, mais aussi toute cette société à qui on a dénié finalement le droit de décider pour eux-mêmes. Donc les Palestiniens doivent pouvoir décider pour eux-mêmes, et pour cela, ce n'est ni à l'autorité palestinienne actuelle de prendre le monopole, ni au Hamas, ni à aucune faction, c'est aux Palestiniens de pouvoir décider pour eux-mêmes. Donc c'est une nécessité que demandent la plupart des Palestiniens.
Merci Inès Abdelrazek, co-directrice du Palestine Institute for Public Diplomacy. C'est une ONG palestinienne de plaidoyer et de diplomatie citoyenne. La tension est encore montée en mer de Chine orientale, cette mer située entre la Chine, l'île de Taïwan et l'archipel japonais d'Okinawa. Pour ces territoires, Pékin représente une menace et multiplie d'ailleurs les provocations militaires. Et les crispations, les condamnations dépassent les milieux diplomatiques. Les habitants aussi s'inquiètent, notamment sur l'île japonaise de Yonaguni, où s'est rendu notre correspondant Bruno Duval.
À Yonaguni, tout est prêt pour si jamais Pékin attaquait Taïwan ou bouclait la mer de Chine orientale, empêchant toute navigation et donc le ravitaillement de l'île par voie maritime. Koji Sugama est en charge de l'élaboration des plans catastrophes.
Yonaguni compte 1648 habitants. Le jour venu, s'il survient, un pont aérien évacuera les personnes qui le souhaitent vers la grande île de Kyushu, qui est située au nord de l'archipel d'Okinawa. 11 vols se succéderont sans discontinuer du matin au soir. Les fonctionnaires municipaux seront les derniers à quitter Yonaguni. Notre objectif est de mener à bien l'évacuation de l'île. En un jour, pas plus.
Les personnes qui ne souhaitent pas évacuer seront invitées à se regrouper dans les centres d'hébergement d'urgence où la population se réfugie en cas de catastrophe naturelle comme les séismes ou les tsunamis. Des stocks y ont été constitués, 3 litres d'eau par jour et par personne par exemple. Mais comme il ne s'agit pas d'abri antimissile, ces habitants n'y seront pas à 100% en sécurité. Le maire, Kenichi Itokazu, ne décolère pas.
Il n'y a pas un seul abri antimissile souterrain dans cette île, pas un seul. L'État m'en promet un, mais ça prendra des années. Pareil, ça fait des lustres qu'on réclame l'allongement de la piste de notre aéroport, où aujourd'hui seuls des petits bimoteurs peuvent atterrir. Cela va poser des problèmes si une guerre éclate et qu'il faut acheminer en urgence d'énormes renforts militaires ici. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans et demi, j'ai réalisé combien nous n'étions pas préparés à faire face à une crise majeure, car c'est l'évidence, notre gouvernement a beaucoup trop tardé à prendre conscience de la menace chinoise.
Plusieurs centaines de militaires sont stationnés à Yonaguni. À l'aide de puissants radars, ils surveillent en permanence les eaux territoriales et l'espace aérien. Il est aussi prévu d'y déployer des missiles sol-air de moyenne portée. Le Japon muscle son dispositif militaire à Okinawa et cela ne fait pas l'unanimité. En raison du poids terrible du passé, il y a 80 ans, la guerre tua un quart de la population civile de cet archipel. Cette retraitée qui milite bénévolement dans une association pacifiste est effarée.
Tirons les leçons de notre passé tragique et faisons en sorte qu'il ne se reproduise pas. Notre pays est régi par une constitution pacifiste. On commémorera bientôt la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus que jamais donc, le Japon doit s'interdire une nouvelle dérive belliqueuse.
Année après année, Tokyo accroît son budget de la défense. Il atteint désormais une 60aine de milliards d'euros, soit davantage que le montant des dépenses militaires de pays comme la France ou l'Allemagne. Bruno Duval, de retour de Yonaguni, RFI.
Un reportage de notre correspondant à retrouver comme toutes nos informations sur l'appli RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actualité africaine. A tout de suite.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.